Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteur dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bienvenue sur les pauses éducatives de Sylvie, un nouveau format de podcast en plus de nos discussions quotidiennes. Dans cette nouvelle série de podcasts courts, Sylvie nous décrit des exercices, des activités ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors bonne écoute!
Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du bilinguisme. En effet, quand j'ai créé mes écoles il y a plus de 30 ans, c'était une des valeurs très importantes que je souhaitais transmettre à nos élèves. C'était le bilinguisme anglais à l'époque, puisque l'anglais était pour moi la langue et est encore aujourd'hui pour moi la langue qu'il est indispensable de parler en plus de sa langue maternelle. J'avais aussi lu les livres de Maria Montessori et ses observations, notamment celles des périodes sensibles où elle indiquait que pendant ces périodes sensibles, l'enfant était doté de cet esprit absorbant qui était comme une éponge, qui lui permettait d'apprendre avec grande facilité, qui le rendait aussi passionné par les sujets de cette période sensible. Et donc, entre 0 et 6 ans, l'enfant traverse la période sensible du langage. Donc, c'est vraiment un moment où il est passionné par tout ce qui touche au langage. Et donc, il possède aussi la capacité d'intégrer tout ce qu'il comprend du vocabulaire sans faire le moindre effort. De plus, à cet âge-là, on sait bien que l'enfant n'a pas d'inhibition, il peut répéter n'importe quoi, n'importe quel mot, sans aucune peur des moqueries, ce qui n'est pas le cas plus tard. C'est aussi un moment où il est dans la période sensible du développement des sens, donc ses sens sont en plein développement et sa plasticité cérébrale est en plein essor. Donc son ouïe est tellement aiguisée qu'il perçoit parfaitement la musique de l'autre langue, ce qui lui permet alors de parler une deuxième langue avec un accent pratiquement parfait. Donc, si on veut que l'enfant parle la deuxième langue comme une langue maternelle, il va être vraiment essentiel qu'il pense totalement dans cette langue sans faire de traduction. Donc, pour cela, il va falloir le mettre en immersion totale, comme quand il apprend sa langue maternelle dans son pays, et c'est-à-dire qu'on ne va jamais lui donner de traduction. Donc évidemment, pour les familles où il y a déjà deux langues chez les parents, il va être essentiel que chaque parent parle une seule langue et une seule, et toujours la même lorsqu'il va s'adresser à l'enfant. Donc c'est la même chose dans les écoles, hein. C'est pour ça que nous on avait mis en place le bilinguisme sous la forme d'immersion totale, sous forme de demi-journée dans une autre langue, avec une personne de langue maternelle anglaise ou vraiment bilingue, afin qu'il n'ait jamais de traduction. C'est vrai qu'on remarque que le mieux, c'est quand les enfants se retrouvent avec des professeurs qui ne parlent qu'anglais, ne comprennent que l'anglais, parce qu'à ce moment-là, ils font vraiment des efforts pour s'exprimer et pour comprendre. Donc c'est pour ça qu'il faut que le maximum, le professeur qui enseigne une autre langue, ne parle pas le français, ou en tout cas ne montre pas aux enfants qu'il le comprend, parce qu'à ce moment-là, il va faire beaucoup plus d'efforts pour se faire comprendre et pour comprendre aussi ce que la personne en face de lui exprime. Alors, certaines personnes pensent que le fait d'apprendre deux langues en même temps va retarder les apprentissages de l'enfant, mais bien au contraire, on va voir ensuite que l'enfant va avoir beaucoup plus de facilité. En revanche, il faudra être patient parce qu'un enfant n'apprend pas une deuxième langue en 3 jours, en 4 jours. Hein. Il va falloir plusieurs années. Il y a un processus qui doit se mettre en place, le fait de comprendre qu'il y a une autre langue, le fait d'intégrer un certain nombre de mots, donc de comprendre et ensuite de dire. Mais par contre, c'est complètement inutile de leur dire comment tu dis table, comment tu dis chaise, comment tu dis chèvre, parce que l'enfant ne l'apprend pas de cette façon-là. Il l'apprend complètement dans l'autre langue. Et vraiment, ça ne sert à rien de le questionner, ça ne sert à rien de lui demander de faire des traductions. C'est complètement inutile parce qu'il ne pourra pas répondre. Et à ce moment-là, parfois, des parents se disent « Ah mais non, mon enfant, il n'a pas appris l'anglais, il ne comprend pas. » Et en fait, on se rend compte quand on le met dans le pays et que les gens lui parlent directement dans la langue, ça j'en ai eu plusieurs exemples à l'école, bah, comme par hasard, on se rend compte que l'enfant comprend et que l'enfant se met à répondre. Donc, plusieurs études ont été faites qui montrent vraiment tous les apports de l'enseignement d'une deuxième langue chez les enfants. En effet, il y a des câblages qui sont installés au moment de la construction du langage qui vont avoir des répercussions très importantes sur l'avenir, sur tout l'avenir de l'enfant. Parce qu'en fait, ce qui se passe du point de vue neurologique, c'est que certaines connexions entre les neurones que l'on appelle les synapses, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, sont sollicitées au moment où la malléabilité corticale du cerveau bat son plein à cet âge-là. Donc les connexions qui chez les enfants monolingues sont sclérosées, à cet âge-là, ça va au contraire en développer beaucoup plus. Donc, on a remarqué que les enfants qui parlaient deux langues avaient d'excellents résultats dans beaucoup, beaucoup de domaines. On constate qu'ils ont une grande souplesse mentale et une mobilité conceptuelle et une capacité à résoudre les problèmes plus importante que les enfants monolingues. Ça, c'est des études qui ont été faites dans différents pays. Et les retombées sont vraiment impressionnantes dans le domaine des mathématiques, où les enfants issus de l'enseignement bilingue ont systématiquement des scores supérieurs à leurs camarades monolingues. Donc ce phénomène, il s'explique bien sûr par la stimulation intellectuelle apportée par le bilinguisme, et plus précisément, les capacités phonologiques et grammaticales, ainsi que la capacité de calcul, sont régies par une même aire cérébrale frontale qui s'appelle l'aire de Broca, et c'est ainsi que la stimulation de cette aire par le bilinguisme précoce aboutit à la création de nombreuses connexions neuronales qui auraient des répercussions directes sur les potentiels intellectuels de l'enfant. Donc ça, ce sont des études qui ont été menées par une personne qui s'appelle Maria Kirsch-Elt et qui s'appelle « Les avantages du bilinguisme précoce ». Donc ces études, elles ont été confirmées par des études aussi qui ont été menées au Canada, parce que le Canada, c'est un pays où vraiment les enfants sont pour la majorité bilingues, et ils se sont rendus compte que dès l'âge de 2 ans, le fait d'être bilingue avait des effets bénéfiques sur les capacités cognitives des enfants, encore une fois. C'est une étude qui a été menée par l'Université de Concordia à Montréal, qui montre que tous les tout-petits qui apprennent deux langues à la fois ont plus de facilité de réaliser des exercices d'agilité mentale et d'attention sélective, c'est-à-dire de la capacité à sélectionner un élément particulier d'une stimulation visuelle, sensorielle ou auditive. Ensuite, le fait d'avoir un vocabulaire enrichi par ces deux langues les aide à mieux se concentrer et booste leur capacité cognitive. Et ils se sont rendus compte dans cette étude qu'ils réussissaient mieux les différentes tâches qui leur étaient proposées. Et d'après les chercheurs, ça s'explique par le fait des allers-retours constants entre les deux langues qui imposent une certaine agilité d'esprit aux enfants. Encore d'autres chercheurs de Singapour, où les enfants apprennent également plusieurs langues dès la naissance, se sont rendus compte que quand un tout petit entend deux langues à la maison, cela le conduit non pas à apprendre une seconde langue, mais à étudier en même temps deux langues et à les discerner en fait. D'où une plasticité et une construction du cerveau différentes chez les bilingues, qui pourraient leur donner des avantages intellectuels potentiels par la suite. Donc en fait, il y a encore d'autres études qui avaient été menées dans les 30, il y a quelques années, en 2000, en 88, en 96, qui montrent que tous les avantages du bilinguisme sont très nombreux. Hein, et ça confirme encore que chez l'enfant bilingue, on remarque une meilleure souplesse cognitive, une plus grande curiosité linguistique, une plus grande curiosité pour tout domaine, une meilleure capacité à apprendre d'autres langues, une plus grande facilité à la formation des concepts, de meilleurs résultats scolaires par rapport aux enfants monolingues, une meilleure capacité à résoudre les problèmes communicatifs, une plus grande sensibilité aux besoins communicatifs des autres, de meilleurs résultats à l'écrit, de meilleures capacités de traduction, bien sûr, un meilleur niveau d'adaptation, de souplesse sociale et une prise en compte plus importante des différences culturelles. Parce qu'évidemment, qui dit une deuxième langue dit une autre culture. Donc, ça la rend l'enfant beaucoup plus ouvert aux autres cultures, ça l'oblige à mieux comprendre l'autre culture et donc à savoir aussi s'adapter à d'autres cultures. Donc, c'est vraiment un apport extraordinaire. Alors, évidemment, l'idéal, c'est qu'un des deux parents soit bilingue et qu'il parle à son enfant toujours dans la deuxième langue dès la petite enfance. Mais si ce n'est pas le cas, on peut évidemment quand même faire beaucoup de choses pour faire baigner l'enfant dans une deuxième langue dès tout petit. Alors, encore une fois, ce qui est très important, c'est l'attitude aussi de l'adulte envers une deuxième langue. Et que l'adulte montre un sentiment de fierté aussi et une attitude très positive par rapport à cette langue. Car à ce moment-là, l'enfant aura encore plus envie de faire des efforts. Et ça, je le vois souvent à l'école, hein, quand certains parents qui ne parlent pas anglais ne font pas l'effort de parler anglais avec l'enseignant de leur enfant, l'enfant va faire beaucoup moins d'efforts. Alors que si le parent, même s'il ne parle pas très bien, il essaye de communiquer avec les mots qu'il peut trouver, bah l'enfant le regarde, l'enfant écoute son parent. Comme le parent est un modèle, et bah l'enfant, comme par hasard, va être un enfant qui va faire beaucoup plus d'efforts aussi pour communiquer. Bon, ensuite, il ne faut pas oublier que l'enfant a sa personnalité et que parfois, quand même avec des parents bilingues, il va faire le choix d'une langue pendant un certain temps. Hein, et puis, il va se dire, bah, par exemple, ma fille parle anglais à sa petite fille. Et ben, pendant très longtemps, elle lui a parlé anglais et ma petite fille lui répondait systématiquement en français. Mais bon, il faut continuer parce que maintenant, ben, elle lui répond également en anglais. Donc en fait, il faut continuer. Parfois, c'est frustrant, parfois c'est difficile. Mais on sait qu'on fait un cadeau extraordinaire à son enfant. Donc le plus important, c'est que l'enfant entende cette deuxième langue le plus souvent possible. Même si un des parents n'est pas bilingue, même si on n'a pas un anglais extraordinaire, on peut quand même faire des choses. Donc, il faut qu'il ait la possibilité aussi, si possible, de parler cette deuxième langue. Donc, évidemment, on peut choisir aujourd'hui des crèches où il y a l'apport de l'anglais, notamment nous, chez Neo Kids, Montessori, on met l'anglais en place sous forme de jeux, de comptines, etc., au quotidien, parce que l'important, c'est que ça revienne aussi souvent. On peut faire le choix d'écoles bilingues, comme les écoles Montessori Athéna, où on met le bilingue sous forme de demi-journée en anglais. Et là, l'enfant est en immersion pendant 4 demi-journées par semaine. Mais aussi, on peut trouver des ateliers bilingues, des ateliers du mercredi, des vacances, etc. Si les parents, bien sûr, parlent français à la maison, il faut essayer de mettre des stratégies en place pour inciter l'enfant à apprendre une autre langue, hein. Alors, si un des parents a la possibilité de parler l'autre langue, il peut déterminer dans la routine de la journée des moments où il va parler chaque jour cette langue. Par exemple, au moment du dîner, il va parler anglais. Ou alors, pendant le bain, il va parler anglais. Et pendant ces moments-là, il va parler que cette langue-là. On peut aussi essayer de trouver des familles étrangères, essayer de provoquer aussi des réunions avec ces étrangers pour que les enfants aient la possibilité de faire des activités dans une autre langue. Certains parents, eux, décident que, par exemple, chaque matin, ils vont parler 10 minutes en anglais. Donc, même si on ne parle pas un anglais extraordinaire, l'enfant voit qu'il y a cet effort. Ensuite, on peut bien sûr avoir recours à des livres en anglais, des films, de la musique, des chaînes de télévision, la radio. Moi, je me souviens d'une famille tout à fait française où si les enfants voulaient regarder la télévision, ce n'était qu'en anglais. Donc, la télévision n'était allumée qu'en anglais. Il y en a d'autres, on peut passer des dessins animés, par exemple, qui sont regardés qu'en anglais, en VO. Alors, pas prendre des choses trop compliquées quand l'enfant est très jeune, hein, parce que vraiment, le but, c'est de commencer tout petit, hein, de commencer à quelques mois, hein, pour qu'il soit dans ce bain d'anglais pendant cette période sensible du développement du langage. Donc, peut-être des choses courtes, mais très régulièrement. Hein. Ce n'est pas la peine de faire un jour, et puis un mois, le mois prochain, de faire un autre moment. Il y a aussi, pour quand ils grandissent, les films de Walt Disney, hein, qui sont en VO et qui sont très jolis, et c'est important aussi, peut-être de dire que quand on regarde la télé, des films, des DVD, ils sont en anglais. Il y a aussi des films, des dessins animés ou des histoires où le personnage favori, l'enfant l'aime beaucoup, par exemple Petit Ours Brun ou Oui Oui, et on peut retrouver aussi, par exemple, J'aime l'anglais avec Petit Ours Brun ou Je parle anglais avec Oui Oui. Et à ce moment-là, on peut le mettre des temps courts, hein, bien sûr, réguliers devant son personnage favori qui va parler anglais. Alors après, on peut fabriquer aussi ce qu'on appelle des flashcards, hein, des images avec du vocabulaire en anglais. et on les montre à l'enfant en intégrant du vocabulaire. Voilà, ce sera que du vocabulaire, pas forcément des phrases, mais c'est quand même toujours bien qu'il entende la langue. Il y a aussi ces fameuses cartes de nomenclature qu'on utilise en pédagogie Montessori, qui pourraient être faites sur des thèmes très variés, où on va développer du vocabulaire sur chaque thème. On décide qu'on va apprendre 6 ou 8 mots en anglais. Donc ça, l'enfant peut le faire totalement en autonomie s'il sait lire avec ses cartes de nomenclature. Et c'est pareil, ça va introduire du nouveau vocabulaire. Alors bien sûr, il faut penser aussi aux comptines. Hein. C'est bien aussi qu'il entende l'adulte qui s'occupe de lui chanter en anglais. Parfois, c'est plus facile pour des gens qui ne parlent pas anglais de chanter en anglais. Donc, on peut trouver des petites comptines que l'on fait en anglais parce que les gestes vont aider l'enfant à mieux comprendre. On peut aussi regarder sur YouTube. Il y a énormément de petites comptines en anglais. Mais c'est mieux que le parent fasse l'effort de chanter en même temps pour que, encore une fois, l'enfant voit l'adulte le faire. Donc toujours avec beaucoup de régularité, donc on peut décider qu'on va faire une petite comptine chaque matin en anglais ou une petite comptine le soir en anglais. Hein, tout dépend de son emploi du temps et de la façon où on peut caser ce moment anglais. On peut aussi faire des petites marionnettes à doigts, des choses qui plaisent beaucoup l'enfant, hein, toujours sur l'émotionnel, toujours aborder les choses avec les activités qui vont plaire à l'enfant et qui vont lui donner envie de le lire. Ah, on peut aussi lire des livres en anglais, c'est aussi un très très bon moyen. Hein. On peut en trouver en bibliothèque, on peut en acheter. Il y a même les livres musicaux où l'enfant appuie et là c'est en anglais. Il existe vraiment beaucoup de choses. Donc au début, trouver des histoires très simples qu'on peut lire soi-même chaque soir avant de le coucher. Par exemple, on peut dire, on va lire une petite histoire en anglais, une petite histoire en français. Et puis voilà, ça rentre encore dans le rituel quotidien. Donc c'est bien aussi de vraiment, même si on ne parle pas bien l'anglais, de faire des activités avec son enfant. Hein, l'enfant, comme il aime bien faire des activités avec son parent, si cette activité est en anglais, ben, il aura forcément du plaisir à la faire, et à ce moment-là, il fera l'effort de le faire. Comme j'ai dit déjà, pour la lecture, pour d'autres choses, il faut aussi que l'adulte montre que cette activité lui plaît, elle est amusante, elle est sympa à faire, etc. Il existe aussi un programme qui s'appelle Kokoro Lingua. Donc je mettrai les références sur le blog des adultes de demain, qui est vraiment une réponse très satisfaisante pour l'apprentissage de l'anglais des enfants de 3 à 7 ans. Nous, on l'utilise dans une de nos écoles, Athéna, à Monterland, parce qu'on n'avait pas d'intervenant en anglais dans cette école. C'était plus compliqué parce que les locaux étaient petits. Et puis, je connais aussi une famille qui fait l'instruction en famille, qui l'a mis en place pour ses quatre enfants. Et les enfants, ils ont entre 2 ans et 7 ans, et ils aiment beaucoup, beaucoup ça. Donc c'est quelque chose qui est fondé sur l'intelligence émotionnelle, comme dit sa fondatrice Nathalie Leslin. Donc c'est un concept très simple. Il y a une vidéo par semaine d'une dizaine de minutes qui suit un parcours pédagogique précis et dont les apprentissages sont basés sur l'émotion et l'intuition. Dont les enfants qui visionnent la vidéo, ils sont plongés dans un univers d'enfants qui ont pour langue native l'anglais et qui partagent chaque semaine un morceau de leur quotidien. Donc ça peut être faire de la cuisiner des pancakes, se brosser les dents, préparer un petit déjeuner, prendre son petit déjeuner, une fête d'anniversaire, etc. Donc ils s'appuient sur le fondement du fait toujours de l'apprentissage ludique, hein, de l'apprentissage dans la vie de tous les jours, et il faut que ce soit aussi très très structuré. Et ça propose vraiment un moment de partage d'un enfant qui parle anglais en face de l'enfant qui le regarde, qui apprend l'anglais. Ça porte vraiment des valeurs aussi de respect de soi, de l'autre et du monde, donc ça développe aussi des valeurs très intéressantes. Et en entendant les enfants parler naturellement leur langue native dans leur quotidien, les enfants qui sont en train de l'apprendre le mémorisent naturellement. Ils apprennent naturellement du vocabulaire et des expressions qui sont employées par les autres enfants, tout en se familiarisant avec les sonorités de la langue et en développant un bon accent. Donc les vidéos, elles sont divisées en plusieurs parties. Hein. Il y a de la brain gym, il y a un temps d'écoute, il y a des temps de répétition. Il y a des moments ludiques qui rendent ce moment, qui maintiennent la concentration de l'enfant. Et comme l'enfant est acteur, et ben il s'attache à ses petits films. Et donc, il n'est pas du tout passif devant l'écran, ce qui est bien pour lutter contre ce côté passif de l'écran, puisqu'on lui demande une participation active. Donc l'enfant, du coup, cet apprentissage se fait tout en douceur, sans pression. Et c'est un moment de joie. Et les enfants sont toujours heureux de trouver au cours de la semaine ces nouveaux amis qui les entraînent vers des nouvelles découvertes. Et ils reprennent ainsi naturellement le vocabulaire qui est assimilé dans leur quotidien, en dehors des temps de visionnage. Ça, c'est aux adultes de trouver les moyens de leur faire réutiliser ce vocabulaire. Donc voilà, le but, hein, c'est d'assimiler environ 500 mots et expressions en 18 mois. Donc les vidéos peuvent être regardées plusieurs fois par semaine. Hein. C'est pareil, il faut faire des rendez-vous réguliers, hein, pas qu'une fois par semaine, plusieurs fois dans la semaine. Ça, c'est très important que cet apport de la langue revienne plusieurs fois. Donc, il est aussi possible de prendre des nounous bilingues. Hein. Maintenant, il y a des organismes de babysitters qui fournissent des babysitters bilingues, ou alors les fameuses filles au père, qui sont aussi une chose qui est très intéressante à faire. Donc ensuite, il y a l'apprentissage donc, de la langue parlée, de la langue écrite et de l'écoute. Une fois que l'enfant comprend pas mal et a un certain vocabulaire, on peut passer à l'apprentissage de la lecture, bien sûr. Donc, nous, dans nos écoles, les enfants commencent par apprendre les sons qui sont communs aux deux langues. Hein. Par exemple, ils vont apprendre le « i » de « pig » parce que c'est le « i » de « image », mais ils vont pas apprendre le « i » de « eye ». Hein, ils vont d'abord apprendre tous les sons communs. Puis, quand dans leur propre langue, ils seront plus avancés en lecture, on pourra introduire les nouveaux sons. Mais sinon, ils apprennent à lire dans les deux langues simultanément. Parce qu'en fait, ça permet de développer du vocabulaire. En même temps, le vocabulaire permet de développer la lecture. Donc, ça agit des deux côtés. Donc ensuite, on les prépare aux examens de Cambridge. Hein. Il existe des examens de Cambridge qui s'appellent les Young Learners, qui sont ouverts à tout le monde, hein, où il y a trois niveaux différents. Hein. Il y a trois niveaux progressifs, hein, les starters, les movers et les flyers. Donc ce sont des examens qui se passent vraiment dans de très bonnes conditions, avec des examinateurs très gentils. Les enfants reçoivent un diplôme avec des écussons. On ne les présente jamais si on n'est pas sûr qu'ils vont réussir, hein, pour toujours les mettre dans la réussite et leur donner confiance en eux. Et ce sont des examens qui sont vraiment très bien faits parce que ça leur développe une confiance par rapport au fait de passer des examens, puisqu'en fait, on les présente que quand ils vont réussir. Donc, ça leur donne un bel effet, un beau ressenti de l'examen. Il y a plusieurs parties, hein. Il y a un speaking, hein, un parler, listening, écouter, writing, écrire and reading, lire. Donc ces examens, pour préparer ces examens, on peut se fournir aussi. Ce qui est intéressant pour travailler à la maison, c'est des petits cahiers d'activités avec un CD audio que l'enfant peut faire en autonomie ou avec ses parents. Ces petits cahiers sont aussi très intéressants pour développer le vocabulaire, les expressions, etc., les couleurs, et tout ça, c'est sur par des thèmes. Et nous, on utilise aussi dans nos écoles des cahiers qui commencent au grade 1, hein, puisqu'en dans le système anglais, c'est pas CPCE1, c'est grade 1, grade 2, grade 3. Et ces petits cahiers sont très bien faits aussi. Dès l'instant que l'enfant commence à lire, il peut les faire en autonomie. Ils sont entièrement en anglais. Hein, ça, c'est très important de les prendre entièrement en anglais. Et l'enfant, c'est pareil, avance à son rythme, intègre du vocabulaire. Et c'est des cahiers qui sont très intéressants, qu'on trouve sur Amazon. On mettra aussi les références sur le blog des adultes de demain pour que vous puissiez vous les procurer facilement si vous décidez que votre enfant peut apprendre l'anglais de cette façon-là, parce que c'est aussi très intéressant. Donc bien sûr, après, la chose qui est très intéressante à faire, c'est d'emmener les enfants faire des petits séjours dans des pays anglophones si c'est l'anglais, hein, hispanophone si l'espagnol, bien sûr. Parce que c'est le meilleur moyen pour que l'enfant comprenne l'intérêt de parler cette langue. Hein. Parfois, il y a des enfants, ils font un peu des petits blocages sur l'apprentissage de l'anglais parce que ça demande des efforts, c'est pas facile. Parfois, ils ne voient pas l'intérêt. Hein. Souvent, les enfants très intelligents ont besoin d'avoir l'intérêt, de voir l'intérêt de la chose. Et le fait de les emmener dans des pays où on parle une autre langue et où ils voient que vraiment là, si on veut comprendre, si on veut se faire comprendre, c'est important de parler, souvent ça déclenche les choses. Et puis, comme je disais, quand les enfants sont des écoles bilingues et où parfois certains parents doutent de leur niveau, c'est aussi un excellent moyen de se rendre compte de tout ce que les enfants savent. Hein. Parce qu'en effet, quand ils apprennent comme ça par immersion, le meilleur moyen, c'est de les mettre dans un contexte anglophone pour se rendre compte de qu'ils comprennent en fait ce qu'on leur dit et puis qu'ils arrivent à donner des réponses. Voilà, bon apprentissage de l'anglais, parce que je pense que vraiment, c'est quelque chose qu'il est très important d'offrir à nos enfants et qui leur facilite considérablement la vie. Moi, je me suis rendu compte avec mes 5 enfants qui ont appris l'anglais en immersion totale comme ça, dès l'âge de 2 ans, que ils s'étaient jamais rendu compte qu'ils apprenaient l'anglais, ils avaient jamais fait d'efforts pour l'apprendre, et ils étaient devenus bon quasiment bilingues, peut-être pas totalement puisqu'ils sont plutôt français, mais ils travaillent entièrement en anglais, ils travaillent dans une entreprise anglophone où on ne parle pas français, ils écrivent l'anglais complètement, et puis aux examens ils ont eu toujours les meilleures notes sans jamais avoir besoin de faire l'effort de préparer leurs examens, ce qui permet d'accorder plus de temps à d'autres matières. Donc vraiment, c'est vraiment un cadeau extraordinaire pour les enfants, sans compter l'apport culturel, le fait de comprendre quelqu'un, de comprendre une autre culture, d'être plus proche des autres et qui rend encore plus tolérant et plus ouvert sur l'autre.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les adultes de demain.